Écoutez-nous comme vous êtes. Écoutez-nous comme vous êtes.
Bonjour à tous, nous sommes en direct du Clapcast. Nous sommes la classe 305 du collège Clapared et aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'intitule Absolument moderne, qui fait partie du roman des romans. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jérôme Maizot, l'auteur de ce livre. Le roman des romans est un prix littéraire qui a été créé en 2009. Son but est de promouvoir la littérature contemporaine de Suisse romande et de favoriser les liens entre les auteurs et le public, et plus particulièrement avec les jeunes.
Bonjour Jérôme Maizot. Afin de faire plus connaissance avec vous, je vais vous faire un petit portrait chinois, mais vous devez répondre de manière rapide et le plus spontanément possible. Si vous étiez un animal, vous seriez ?
Un chat.
Pourquoi ?
J'aime les chats.
D'accord. Si vous étiez une plante ou une fleur ?
Une ortie.
Une ortie ? Pourquoi
Parce que j'aime la soupe d'ortie.
D'accord. Si vous étiez un plat,
Les lasagnes.
Très bon choix.
Parce que j'aime les lasagnes.
Si vous étiez une couleur,
orange.
Si vous étiez une chanson,
Painted Black.
Oh. Si vous étiez un métier, sauf ce que vous exercez.
Peintre.
Pourquoi ?
Parce que j'aime bien les couleurs et j'aime bien composer des tableaux.
Si vous étiez un objet, sauf un livre.
Oh là là. Une guitare électrique.
Si vous étiez un film.
Le ruban blanc.
Si vous étiez un sport.
L'alpinisme.
Et pour finir, si vous étiez un livre.
Le dictionnaire.
D'accord.
Pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, je vais vous lire une description de vous-même. Et ensuite, je vais vous poser des questions pour savoir si cette biographie vous correspond ou pas avec ce qu'on peut lire dans la presse. Jérôme Maizot, né le 23 décembre 1967, est professeur associé à l'Université de Lausanne. Spécialiste de Ramu, critique littéraire et écrivain. Le Valaisan est un habitué des prix. Son premier livre, Mort ou vif, a été désigné livre de la Fondation Schiller Suisse 2000, tandis que Faire le garçon a reçu le prix suisse de littérature en 2018. Jérôme Maizot a reçu le prix d'encouragement artistique du canton du Valais en 2000. Il fait partie de la Fondation Ramu, du groupe Dalton et de Prodliteris. Il vit à Lausanne tout en gardant de fortes attaches familiales et culturelles avec le Valais. Est-ce que vous êtes, comme on le dit dans la petite biographie, un habitué des prix ?
Habitué, non, on s'habitue jamais. Mais j'en ai eu quelques-uns, ouais.
D'accord. Vous êtes professeur associé à l'Université de Lausanne. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça veut dire que je dois donner des cours aux étudiants qui font des études de lettres, qui étudient le français à l'université. Et donc voilà, on donne des cours à toutes les années, on prépare les mémoires de master, on fait des ateliers d'écriture, des séminaires et tout ça. Enfin, c'est un petit peu la suite de ce que vous faites ici, mais dans une discipline précise.
D'accord. Comment vous êtes-vous retrouvé à faire deux métiers et à faire partie de plusieurs fondations et groupes ?
Bon, ça fait partie justement des contacts qu'on a dans le milieu. Hein. On fait partie d'associations, de fondations dans lesquelles on soutient ou on défend le métier, des auteurs, des lectures, des traductions. Et puis, oui, c'est deux métiers, parce que le métier qui me fait vivre, c'est celui de professeur, d'enseignant. Et le métier d'écrivain n'est pas véritablement un métier, d'ailleurs, je crois, en Suisse, du point de vue juridique, et c'est pas un métier qui permet de vivre, ici en tout cas. Donc, il faut avoir un autre métier à côté.
Pourquoi n'êtes-vous pas écrivain à plein temps?
Vous y avez répondu. Je peux pas, ouais. Je pourrais pas, je serais mort de faim.
Dans toutes les biographies qu'on a lues sur vous, on vous appelle souvent le Valaisan et on dit que vous êtes aussi très attaché à ce canton. Est-ce que c'est vrai et pourquoi?
Disons, c'est l'endroit où je suis né, c'est l'endroit où je vis une partie du temps, donc je suis un peu attaché, mais c'est le hasard de la naissance. Hein. Si j'étais né à Francfort, ce serait Francfort.
D'accord.
Pour comprendre comment vous en êtes arrivé là et en savoir plus sur vous, je vais vous poser des questions sur vos débuts et votre jeunesse. Et je voulais savoir quel type d'élève vous étiez quand vous étiez au cycle ou au collège.
Au cycle, j'étais un élève apeuré. Effrayé par mes enseignants, parce que c'était un collège religieux, c'était le collège de Saint-Maurice, et une partie de mes enseignants c'était des prêtres, et j'en avais la trouille, quoi. Voilà, ils étaient pas méchants, mais j'en avais la trouille parce qu'ils avaient pas, ils avaient pas la fibre d'enseigner, ils étaient pas très adaptés à nous comme ados. Et voilà, j'avais la trouille. Après, au collège, ça passait parce que je devenais un petit peu plus grand et je commençais à m'affirmer, j'avais des copains et copines et on avait plus peur des curés.
Ok. Et si vous pouviez la définir, quelle était et quelle est votre personnalité, si elle a changé, si vous étiez calme et maintenant, ou alors perturbateur, et si ça a changé ou...
Perturbateur, non, en tout cas pas à l'école, parce que justement, il y avait une discipline de fer qui régnait dans ce collège, et on n'osait pas trop faire les malins, et moi, je faisais pas trop le malin. Et je peux pas dire que j'étais calme, j'étais plutôt anxieux, nerveux, mais à l'école, je laissais passer, quoi. Je me faisais pas remarquer, quoi.
Ok, et pour écrire, je pense du moins qu'il faut aimer lire, et quel était votre rapport à la lecture quand vous étiez jeune? Si on vous donnait un livre à lire, vous étiez content ou ça dépendait des livres?
Ça dépendait des livres, hein, c'est pas... On a tous souvent fait cette expérience quand on est petit, on aime bien certains livres, on lit beaucoup même à une période, je sais pas, vers 8-10 ans comme ça. Puis après, l'école, elle change un peu la donne parce que ça devient une lecture un peu obligatoire. Ça, c'est associé à des notes, ça fait un peu peur. Ou alors, c'est des textes qui sont très très loin de nous parfois. Et donc, moi, comme les autres, j'ai certains livres qu'on me donnait, j'avais pas envie de les lire. Mais en même temps, j'ai tout de suite aimé lire parce que ça m'a plu d'avoir un espace, un mental de solitude ou de silence pour réfléchir. Et puis, je suis tombé aussi, on m'a donné à un moment donné des livres qui m'ont fasciné parce que l'expérience de plonger dans un univers, comme dans un film, hein, c'est pas très différent, sauf que le livre c'est en papier, mais de plonger dans un univers fictif dans lequel vous êtes complètement, vous avez des émotions, vous avez des attentes, etc. Ça, c'est une expérience unique, quoi. Donc j'ai toujours gardé ce plaisir.
Très bien. Et du coup, à quel âge avez-vous commencé à écrire? Pourquoi? Comment c'est venu? Si c'était un hobby, un échappatoire? Enfin, les raisons qui vous ont mené à ça?
J'ai commencé assez tard parce que je sentais que j'avais envie d'écrire et je lisais beaucoup et je m'intéressais déjà beaucoup à la littérature, mais au début, je ne savais pas si je pourrais écrire, ce que ça voulait dire. Je ne connaissais personne qui faisait ça dans mon milieu et... C'était un peu abstrait, quoi. Et puis surtout que la plupart des écrivains, quand vous enseignez à l'école, ils sont morts, hein, donc ça donne pas hyper envie, quoi. Donc, après, j'ai commencé pendant mes études à l'université, donc plus tard, après vers 20, 23, 24 ans, parce que là, il y avait plus de liberté, il fallait commencer à penser à l'avenir, je commençais à rencontrer aussi des gens qui écrivaient, qui... Voilà, et donc ça a développé cette envie, enfin ça l'a rendu possible, disons.
Très bien, et est-ce que cela vous a apporté quelque chose ou a changé quelque chose à votre vie, le fait d'écrire ou...
Ah oui, ça oui. Ça... comment dire, c'est un peu une boussole, quoi. C'est comme avant, je pense que j'avais pas de boussole, je pouvais aller dans tous les sens. Maintenant, j'ai une quille, comme un bateau qui a une quille, je sais dans quelle direction ça va, et je sais ce qui est bon pour ce que je veux faire. Enfin, je sais, petit à petit, hein. Enfin, c'est pas tombé d'un coup, mais ça s'est clarifié, mais ça c'est aussi avec l'âge, hein. Je pense que c'est normal au début de pas très bien savoir où on va, on se cherche, c'est tout à fait normal. Mais après, petit à petit, en tout cas moi, ça m'a donné une direction et ça a donné du sens aux autres choses, ça a approfondi la vision du monde. Je regarde plus les choses, j'observe plus, j'écoute plus les gens parce que je sais que je veux écrire sur un certain sujet, donc il faut que j'écoute ce qu'il y a autour de moi, ce que j'essaie de capter le maximum de choses pour pouvoir ensuite nourrir l'écriture.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez passé beaucoup de temps à Zurich et maintenant vous êtes ici à Genève. Est-ce qu'il y a des choses, des différences qui vous ont frappé entre Zurich, le Valais et Genève ?
Oui, il y en a pas mal quand même, hein, même si on est dans le même pays. Bon, à Zurich, il y a le suisse allemand déjà, hein. Ça vous le ramassez dans les dents, hein, en arrivant, parce que moi je comprenais rien ce qu'on me disait au tout début, hein. Et puis heureusement les gens là-bas avec qui je travaillais, ils m'ont parlé en allemand standard d'abord un petit peu, parce que je leur ai dit non, moi le zurichois je peux pas. Puis petit à petit c'est venu et à la fin je savais à peu près le zurichois des bistrots, quoi. C'était déjà pas mal, hein. Après, la différence entre le Valais et Genève, je sais pas, il y a beaucoup de Valaisans à Genève. c'est le décor, je pense. Les montagnes ou la différence entre les catholiques et les protestants, ça quand même, hein. Je pense que, enfin, il y a une différence quand même dans la manière de en rapport au monde, mais c'est difficile à dire. Mm-hmm. Ça se voit pas tout de suite, mais il y a une petite différence. Je saurais pas expliquer plus, mais.
D'accord, merci.
Est-ce que vous avez des conseils pour être un bon lecteur ?
Un bon lecteur ?
Oui.
Ou lectrice ? Mon Dieu, non, j'aurais pas pensé à donner des conseils. Moi, je pense qu'il faut que chaque lectrice et lecteur trouve son bien dans le livre qu'elle doit lire, qu'il ou elle doit lire. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de liberté. Il faut d'abord pouvoir choisir les livres. Alors, bien sûr, à l'école, on peut pas toujours les choisir. Il y a un programme, ça, c'est normal. Mais disons, après, les livres qu'on choisit à l'extérieur, à la bibliothèque ou à la librairie, se poser des questions, demander à des amis, se faire conseiller des livres, c'est souvent comme ça, hein. Jusqu'à ce qu'on trouve le truc, c'est comme un plat en cuisine, jusqu'à ce qu'on trouve le truc qui nous plaît. Et il existe, hein, il y en a tellement. Simplement, des fois, on ne sait pas comment le trouver. Puis après, je pense qu'il faut faire confiance à toutes ces antennes, à toutes ces... Il faut par contre avoir pas mal d'attention et de patience, parce que c'est vrai qu'un livre, on a l'habitude beaucoup des écrans maintenant, bah, le livre, ça va un peu plus lentement, il n'y a pas d'électronique. Mais c'est aussi, ça peut être aussi apaisant et une sorte de silence qui peut faire du bien à certains moments. Pas tout le temps, mais à certains moments.
Et pour finir, selon vous, tout le monde peut-il devenir écrivain ?
Pourquoi pas ? Je vois pas de raison pourquoi tout le monde ne pourrait pas le devenir. Après, la difficulté, c'est quand même que maîtriser une langue à l'écrit, c'est quand même un gros travail. Mais c'est pas pire que maîtriser un instrument de musique, hein. Ceux qui jouent de la guitare ou du violon, ils savent très bien, hein, qu'il faut des années pour jouer du violon, quoi. Donc écrire, c'est la même chose. Simplement, on voit pas l'instrument, c'est dans la tête, c'est le rapport à la langue, c'est la précision, c'est l'attention aux mots, tout ça. Mais je crois que c'est à la portée de tout le monde, si on le veut, et si on demande de l'aide aussi à d'autres qui ont déjà de l'expérience. C'est comme un apprentissage, ça se fait très bien.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Je vole au sombre hiver, des pluies d'automne. Bonjour Monsieur Maizot, on espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Clapcast pour pouvoir parler de votre livre qui s'intitule « Absolument moderne ». Nous nous sommes basés sur celui-ci afin d'en tirer des sujets pertinents et de les aborder pendant l'émission. On espère que vous allez apprécier et que vous allez passer un bon moment en notre compagnie.
Alors, comme nous le savons, votre livre est parti du roman des romans. Alors nous avons une question particulière à vous poser. Nous ne comprenons pas pourquoi votre livre est dans la catégorie roman alors qu'il n'a pas les critères du roman. Par exemple, on traverse plusieurs sous-histoires où les personnages ne sont jamais les mêmes, malgré que l'histoire tourne autour d'un seul personnage qui est celui de Jérôme Maizot, Jérôme Fracasse, pardon. Il y a également le style stylistique de votre livre qui n'est pas commun avec les autres romans. On le voit à travers l'illustration des chroniques afin de diviser le livre. Chacune d'entre elles parle de progrès qui se situent en Suisse plus précisément, des progrès que Jérôme Fracasse critique toujours. Après chaque chronique, vous avez ajouté des passages intitulés Les Anges, qui encore une fois nous montrent l'utilisation d'un style stylistique particulier. Donc notre question c'est pourquoi votre livre est-il énoncé en tant que roman alors qu'il a été rédigé sous forme de chronique ?
Alors c'est une bonne question, c'est vrai, mais je pense que ça dépend de la définition que vous avez du roman. Si vous comparez mon livre aux autres romans de la sélection ou bien aux romans classiques que vous pouvez lire, évidemment on peut se poser la question, mais en même temps le roman c'est pas un genre fixe, hein. C'est pas un genre qui a une seule manière de se développer, c'est un genre extrêmement plastique qui peut utiliser la lettre, la chronique, le journal. Il y a des romans sous forme de journaux, de faux journal intime, de journal intime fictionnel. Donc en fait, moi j'utilise toute la plasticité de la forme. Il y a des chroniques, il y a des portraits, mais il y a quand même une structure narrative globale avec une évolution, là c'est plutôt temporel. Et pour moi c'est un roman au sens où j'ai besoin de passer par une sorte de distance de fiction, qui est ce personnage qui porte un nom qui est tellement proche du mien qu'on voit tout de suite le clin d'œil, hein. Et donc on voit bien aussi que ça évoque beaucoup d'événements qui sont des événements réels, mais ça les évoque sur le mode de la fiction, c'est-à-dire à travers un personnage un peu bizarre, un peu qui a une fonction étrange. Il doit faire des chroniques d'une période, il doit regrouper des documents historiques, il doit essayer de comprendre le temps présent, le temps qui vient de s'achever, et il s'interroge sur le futur. Il est un peu étrange, ce narrateur est, c'est un petit peu moi, mais c'est pas moi non plus. C'est quelque chose, c'est un personnage que j'ai fait évoluer librement à partir de moi. Et donc pour moi c'est vraiment un roman au sens de récit fictionnel mobilisant toutes sortes d'informations, de textes, de voix, et vous verrez, il y a beaucoup de romans qui utilisent toutes ces ressources.
Ça marche, merci. Nous voulons aborder avec vous le sujet des tests intitulés Les Anges, dans votre livre. Après chaque chronique, il y a un texte des anges. Nous avons émis la conclusion qu'il serait là dans le but de résister face au progrès et d'une certaine façon raisonner le peuple qui voit tout cela comme un nouveau monde parfait. Ce qui n'est réellement pas le cas, car on comprend par la suite que plusieurs problèmes débouchent de toutes ces nouveautés. Donc nous voulons voir avec vous si cette interprétation est belle et bien et bien celle que vous avez pensée lorsque vous rédigiez. Donc, quel a été votre but en faisant des références récurrentes par rapport aux anges ?
Alors, je commencerai juste par dire que c'est pas moi qui détiens le sens de mon texte. La seule chose que je détiens, c'est que j'ai écrit ce texte et que je sais ce que je voulais faire. Hein, j'avais des intentions. Mais ensuite, vous, en le lisant, vous allez mobiliser, activer d'autres formes d'interprétation, votre propre expérience, votre imaginaire, votre connaissance de cette époque, votre capacité d'être touché par ces personnages. Et c'est le sens que vous donnez à ce texte qui, moi, m'intéresse plus que de dire le sens qui est le mien. Maintenant, si vous me posez la question sur les anges, je peux vous répondre. Effectivement, à la page 35, déjà, au début, à la quatrième chronique, on dit que il y a les entrepreneurs et tout ça, qui les deux Olibrius qui règnent sur le monde, et il y a des anges qui aimeraient bien faire quelque chose contre eux, mais ils ont pas les anges. Le problème c'est qu'ils ont des ailes, ils ont pas de mains, et sans les mains tu peux pas faire grand chose concrètement. Hein. Donc Oui, les anges, c'est ce, pour moi, c'est une image de personnes qui pourraient résister à la destruction du monde qui est opérée ici, dans, en tout cas dans le texte, par les entrepreneurs. Construction, destruction, hein, c'est un peu ambigu. Ils construisent aussi, hein, ils construisent des bâtiments, ils construisent des discothèques. Mais on peut aussi considérer que, d'une certaine manière, ils détruisent un monde. En tout cas, dans le livre, c'était mon imaginaire.
Et nous avons également constaté que la religion est assez présente dans le livre. Il y a plusieurs symboles qui font référence à celle-ci, comme par exemple la présence des anges, dont on vient d'en parler, et de Dieu, qui est aussi très présent tout au long du livre. Jérôme dit que Dieu voit tout de là-haut, mais malgré cela, il n'agit pas, et cela pendant toute l'histoire. Tout au long du livre, vous précisez l'inactivité de Dieu. Donc pour quelle raison insistez-vous sur l'inactivité de Dieu ?
Ouais, c'est un Dieu qui est parti en vacances, quoi, qui est un peu... Pourquoi ? Juste, c'était une fable, hein, c'est une sorte de fable, vous avez vu. Ça utilise, là, vous parlez de la religion, ça utilise un petit peu les phrases de la Genèse dans l'Ancien Testament. Au commencement était le Verbe, hein, là c'est au commencement était l'action. Ça détourne ce texte en re-racontant l'origine du monde, sauf que cette fois-ci, au lieu que Dieu fasse tout très bien, il se taille en vacances assez vite, et puis il laisse aux deux Olibrius la suite, et c'est nous qui copons de la suite, c'est-à-dire que pendant sept générations, ils ont foutu un tel bordel que bientôt on n'aura plus de ressources, l'environnement est moitié foutu. Donc il faut bien que des anges fassent quelque chose, mais encore, je reste dans l'imaginaire du livre, hein, je parle à l'intérieur du livre, quoi. Et eux, évidemment, tant que Dieu est à l'assurance maladie ou sur les îles, enfin il est dans plusieurs endroits différents, hein, mais faut pas compter sur lui pour aider. Et donc il faut que d'autres s'en mêlent, les anges, ou alors les gens simplement eux-mêmes, en disant bah, nous on veut plus vivre avec ces entrepreneurs qui fichent tout en l'air.
Ok, merci beaucoup.
Vous avez vraiment parlé de ça avant, mais on va y revenir. On sait que le protagoniste de l'histoire est Jérôme Fracasse, il est également le narrateur. Nous n'avons pas d'informations exactes sur lui, mais on en s'est fait un portrait. Il semble être un homme sûr de lui, avec des idées fixes sur sa vie. Il est sûrement âgé d'une quarantaine d'années et a une corpulence, si on ose dire, standard. Il a une vision très pessimiste des évolutions qui ont couru pendant les 30 Glorieuses, ce qui est contradictoire avec la période elle-même. On y reviendra plus tard. Donc en effet, il porte le même prénom que vous. Est-ce que cela montrerait le fait qu'il partage la même opinion et le même point de vue que vous sur le progrès ?
Pas tout à fait, justement. C'est-à-dire que si j'avais voulu dire mon opinion sur le progrès ou la croissance, j'aurais écrit un article dans un journal ou bien un petit essai, un petit reportage, je ne sais pas. Et ça aurait été très ennuyeux parce que j'ai des idées qui ne sont pas spécialement originales là-dessus. Et l'avantage d'un personnage de fiction, c'est qu'on peut on le libère, on le lâche, quoi, comme un chien. Et il fait tout plein de trucs bizarres, il a des idées, il va trop loin, il exagère, il se contredit. Voilà, pour moi, c'était beaucoup plus vivant un personnage comme ça, auquel on n'est pas obligé d'adhérer, parce qu'on peut, en le lisant, le trouver aussi à moitié ridicule, hein. Et ça peut faire penser différemment. Donc voilà, je m'identifie pas spécialement à lui, mais ça part évidemment de moi. Quand même dire par rapport à l'histoire du progrès, c'est que moi je suis pas du tout. Enfin, je développe pas ce livre parce que je suis contre le progrès. J'ai rien contre le progrès. J'ai pas envie de renoncer à tout ce que la modernité a apporté. Simplement, ce que je fais dire au personnage, c'est que avec ces choix de la croissance, notamment technologique, industrielle, maximum, on s'est mis aussi dans une situation dangereuse. Et donc, il faut quand même réfléchir. Tous les progrès sont pas nécessaires ou bons, et il y en a qui sont dangereux. Et peut-être que, bon, voilà, ça c'est un cliché, mais on peut choisir en fait entre les progrès qu'on veut, qui nous semble nécessaire, par exemple avoir une bonne médecine, et puis d'autres qu'on peut estimer moins nécessaires. On s'en fout que les bagnoles soient de plus en plus rapides, grandes, électroniques, bon, par exemple. Hein.
D'accord. Et pour revenir aux 30 Glorieuses, on sait que c'est une période de révolution. Dans le principe, tout le monde est ravi et ont une foi aveugle en l'évolution après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une période dans laquelle les gens revivent. De plus, elle désigne la période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie. Par rapport à ça, Mégane aimerait vous poser une question.
Pourquoi avez-vous écrit sur les 30 Glorieuses ?
Alors les Trente Glorieuses, c'est une période dont moi j'ai connu seulement la fin. C'est la génération de mon père, en fait, de vos grands-parents, je pense, en termes d'un. C'est des années d'optimisme extraordinaire. Et moi, je les ai pas entièrement vécues, j'ai vécu justement la fin, mais à travers l'histoire de mon père, et donc de ma famille, entre autres, et de ma mère, bien sûr, j'ai entendu beaucoup parler de cette période. Et j'ai vu comment les gens de cette période voyaient le monde, c'est-à-dire de manière très optimiste, souvent, en pensant que c'était la période où il y avait une croissance continue des salaires, des objets qu'on pouvait acheter, des vacances, etc. Il y avait un mouvement dans lequel la plupart des gens disaient on va vers le mieux, on va vers quelque chose de mieux. Et le spectre des problèmes d'environnement, des problèmes de crise économique, etc. était beaucoup moins présent. Donc ce que je voulais raconter, c'est cette période qui a été aussi une période d'insouciance telle qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Parce que quelque chose a basculé, et a basculé, je ne sais pas tellement quand, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, et vous vivez déjà dans un monde beaucoup plus inquiet, et qui n'a plus les mêmes caractéristiques que ce monde-là. C'est pour ça que je voulais faire contraste en le racontant. Hein. Voilà.
Ça marche, merci. si je vous dis, se prononce pareil mais ne s'écrit pas pareil.
Se prononce pareil, c'est une devinette ? Se prononce pareil mais ne s'écrit pas pareil. C'est un homonyme, non?
Oui.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui est dans votre livre.
Croissance, ouais.
Ouais. En effet, nous avons remarqué que vous avez utilisé souvent cet homonyme qui est croissance. Pouvez-vous nous dire sa signification exacte et pourquoi en avez-vous fait une utilisation récurrente ?
Alors sa signification, c'est vous, les lectrices et les lecteurs qui pouvez l'imaginer. Hein. C'est important que vous en fassiez quelque chose, ou quitte à dire j'y comprends rien ce truc. Là maintenant, moi ce que j'ai voulu faire, c'était de jouer sur le son du mot croissance, parce que c'est un mot magique, croissance, on l'entend tout le temps, dans tous les téléjournals, dans toutes les radios, vous entendez croissance, la croissance est menacée. Hein. Donc c'est devenu un mot magique en fait, on sait plus ce que ça veut dire. Quoi. C'est juste, c'est les dieux actuels. Avant on avait des dieux sous forme de statues, maintenant c'est des mots comme ça, puis quand vous l'entendez, vous baissez la tête et tout. Voilà, moi je voulais juste reculer un petit peu, faire entendre le sens du mot, le son du mot. Ça ressemble au croassement d'un corbeau, par exemple. Et puis ça fait penser au mot croire, croire au sens, croire à quelque chose qui nous est promis. Et puis peut-être que si on répète ce mot plusieurs fois, on recule un peu, on s'aperçoit que c'est construit, que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Et on peut par exemple aussi dire la croissance, c'est un rêve de ceux qui dirigent l'économie parce qu'ils veulent qu'on produise de plus en plus de biens, de fric, etc. Et puis qu'à la fin, on n'en peut plus parce qu'il y en a trop. Et on ne sait plus quoi en faire. En même temps, je rigole pas avec ça, hein, parce que si on arrête toute croissance, il y a des gens qui auront moins de biens, etc. Hein, donc faut pas. C'est un sujet assez sérieux. Hein, mais disons, c'est un sujet qu'on peut discuter. Tandis qu'avant, enfin jusqu'à maintenant, ça se discutait pas. Hein, croissance, tout le monde à genoux. Progrès, tout le monde à genoux, etc. Hein.
Ok, merci.
Maintenant, nous avons une proposition pour vous. Nous allons vous proposer de défendre votre livre. Et pour cela, donc, vous aurez une minute et vous devez répondre à la question « Pourquoi devons-nous voter pour votre livre ?» Est-ce que vous êtes prêts ?
je suis prêt, ouais.
Ok. 3, 2, 1.
Franchement, j'avais pas prévu ça. Bon. Et puis, je me sens surtout pas bien du tout dans la position du type qui doit dire « Votez pour moi ». Qui a une pancarte électorale, votre formule, ça. Mon livre, c'est pas forcément le meilleur de la sélection, ni le meilleur livre paru cette année-là, etc. C'est le livre que j'étais capable de faire. C'est celui qui m'intéressait. Je suis très content de l'avoir fait, que j'ai le prix ou pas. Hein. Je m'en fous complètement, je vous dis franchement. Pour moi, il est réussi parce que je raconte toute cette période avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'éléments chiffrés aussi. C'est un petit peu un livre d'histoire aussi, mais j'emprunte beaucoup aux historiens. À la fin, je les cite, hein, parce que je leur ai pas volé l'info, je l'ai utilisé. Et Je tenais absolument à raconter une fois cette période et les croyances qu'on a eues, les illusions, les dangers de cette période des 30 Glorieuses et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire une période très très inquiète. Et c'est pas facile à vivre et c'est d'autant moins facile pour vous, je pense, qui commencez maintenant dans la vie. Donc je me dis, il va falloir vraiment inventer des trucs. Je suis pas pessimiste. Je pense que vous allez tout à fait inventer des choses. C'est votre génération qui va changer un certain nombre de choses dans ce monde. Pour nous, on peut accompagner, aider, voilà, mais c'est peut-être déjà un peu trop tard pour le changer. Moi, ma génération, on aurait voulu changer le monde. On s'est un peu... Non, je dirais pas qu'on s'est planté, mais on était face à des forces beaucoup trop importantes qui se sont vraiment fichées de nous, quoi. Enfin, on essayait de faire des pétitions, des trucs, de demander, toutes sortes de choses, et on nous riait à la figure, quoi, vraiment. Donc, maintenant que la donne est en train de changer, qu'il y aura des problèmes divers, hein, mais ça va peut-être modifier les capacités de transformer les choses. Et puis, moi, je compte sur vous. On compte sur vous, et puis en même temps, on peut aider si on peut encore faire quelque chose. Et voilà, pour moi, ce livre, il devait aussi servir à ça, mais c'est bien sûr aussi une partie de ma vie dans ce livre, c'est la vie de mon père, à la fin, c'est la mort du père, donc c'est aussi un livre de deuil sur mon père, c'est un livre plus personnel, mais c'est personnel dans une histoire générale qui concerne tout le monde, et c'est la fin d'une génération, celle des 30 Glorieuses, celle de vos grands-parents. Qu'est-ce qu'ils transmettent, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Moi, je me suis toujours dit, avec un livre comme ça, par exemple, les jeunes, ils peuvent... poser des questions à leurs grands-parents, genre c'était comment pour toi, t'as eu quand ta première machine à laver, des trucs comme ça. Donc, ma mère, elle me disait, par exemple, je me rappelle, me disait, nous, la machine à laver et le linge, ça, c'est un truc qu'on n'a jamais regretté, parce que y a bien sûr des inventions qui sont inutiles, mais par exemple, la machine à laver et le linge, pour les femmes, c'était les femmes qui faisaient la lessive à l'époque, c'était une journée par semaine, la lessive, hein, et puis c'était dans l'eau froide, et puis c'était crevant, hein, donc il n'y avait pas de shopping le samedi, il n'y avait pas de promenade, c'était la lessive. Donc là, la machine, elle a fait gagner énormément de temps, et donc là, c'est un progrès qu'on peut vraiment remercier, enfin, qu'on peut louer. Et ce progrès-là, voilà, il est donné, il est gagné. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a libéré grâce à la machine ? Voilà.
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà dépassé la minute ou même.
Oui, mais pardon. C'était très argumenté, pardon, donc c'est pas grave.
Désolé.
Merci beaucoup.
Voilà, notre partie se conclut ici. On vous remercie de nous avoir accordé un moment et d'avoir pris la peine de répondre à nos interrogations. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous vous retrouviez parmi les finalistes du concours Roman des Romans et pourquoi pas que vous soyez le grand gagnant. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Merci. I used to know this girl. She used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl. She used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. Well, she don't dance no more. She don't dance no more. No, she don't dance no more. Say she don't dance no more. So I don't need her.
Bonjour Monsieur Mezo, tout d'abord je tenais à vous remercier de votre présence ici dans notre émission radio. Donc Nous, on va vous aborder tout ce qui entoure le livre et non pas l'histoire. Donc, on va vous parler du concours du roman des romans, du parcours du livre, son édition, etc. Et on a aussi des avis de certains lecteurs anonymes. Et on vous garde une petite surprise pour la fin.
D'accord.
Ok, du coup, la première question qu'on a en rapport avec le parcours de votre livre et de vous aussi, c'est comment ça s'est passé, le contact avec le roman des romans? Parce que nous, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, est-ce qu'ils vous ont envoyé une lettre, et puis comment ça s'est passé?
Alors, j'ai déjà fait plusieurs fois ce concours, vous avez vu, hein, je crois que c'est la troisième fois. Alors, ce qui se passe, c'est que non, un beau jour, vous recevez simplement un mail en vous disant que vous avez été sélectionné, mais nous, on n'a rien demandé. Hein. Mm-hmm. On a été sélectionné par un comité d'enseignants. Et donc, voilà, on reçoit l'info qu'on est sélectionné et on nous demande si on est d'accord de participer. La condition étant justement d'aller rencontrer au moins 5 classes dans divers endroits et donc d'accepter ces rencontres. Et puis ensuite d'accepter aussi d'avoir une journée de débat avec les étudiants, ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, et puis de venir à la soirée finale, qu'on soit gagnant ou perdant, enfin de participer jusqu'au bout. Et voilà, donc moi j'ai accepté tout de suite avec plaisir, parce que j'aime bien rencontrer des classes notamment.
Ouais. Et les deux autres fois, ça s'est bien passé, vous avez toujours eu un bon contact?
Très bien, ouais. Avec les classes, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai pas eu le prix, mais j'ai très bien, j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens, ouais.
Et puis la deuxième question qu'on a pour vous, c'est à part du coup le roman des romans, est-ce que vous avez participé à d'autres concours?
Non, bah j'ai déjà été sélectionné pour des prix, mais c'était pas sous forme de concours. Mm-hmm. Quand on est sélectionné pour un prix, on n'a rien à faire, on attend la réponse. Okay. Tandis que là, c'est vraiment un truc où on participe.
Plus interactif.
Ouais.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
On voulait savoir où vous avez trouvé l'inspiration dans l'écriture de votre roman.
De celui-là?
Oui, c'est ça.
C'est pas vraiment une inspiration, c'était vraiment l'idée de raconter. Au début, c'était l'idée de raconter ces 30 glorieuses à travers la vie de mon père. Et donc, on le voit apparaître à plusieurs reprises dans le livre jusqu'à sa mort. Et donc, c'était un peu le fil, l'inspiration, disons, le fil, c'était sa vie à lui. Depuis 1950, quand il a commencé à travailler, jusqu'à sa mort. Et toutes les nouveaux objets, les nouvelles techniques, les nouvelles expériences qu'il a pu faire, sa première voiture, la première fois qu'on est parti en vacances. Nous, on partait pas en vacances, et on n'avait pas d'argent. On n'avait pas, voilà, à l'époque, on partait pas tellement en vacances. On a été une fois en Italie en famille, et c'est resté un souvenir merveilleux parce que c'était les uniques vacances, quoi. Des choses comme ça. Hein. Mais ça, je les ai pris comme des symboles de cette période. Voilà.
D'accord. Et est-ce que vous auriez voulu que ce soit un autre de vos livres qui soit choisi pour participer au roman des romans? Et si oui, lequel?
Ben, il y en a déjà eu deux autres qui avaient été choisis. Donc, voilà. Non, je suis très content qu'il ait été choisi. Après, c'est vrai que je me suis demandé, quand on m'a dit qu'il était choisi, je me suis demandé si c'était un livre qui était adapté aux attentes d'un public comme vous. Est-ce que ça raconte pas des choses trop anciennes, etc. Mais bon, voilà, une fois que c'est choisi, c'est choisi. Après, il faut assumer. Hein.
Mais vous êtes content?
Ah oui, moi, je suis très content. Ouais.
Monsieur Mezzo, le titre de votre roman s'intitule « Absolument moderne ». Il vous est venu instinctivement ou vous avez hésité avec d'autres titres?
Non, j'ai tout de suite eu le titre parce que souvent quand j'écris un projet comme ça, assez long, j'ai le titre au début. Okay, après, merci. Je dois essayer de le suivre. Le titre, il vient d'un poème de Rimbaud, enfin d'une saison en enfer de Rimbaud. Et il faut être absolument moderne. Voilà, c'est une déclaration de modernité pour la poésie. Moi, j'ai évidemment un petit peu retourné avec le point d'exclamation. Ça devient un petit peu ironique. Hein. Cette fois-ci, on a été absolument moderne. Ouais.
Ok, et ça fait un an que votre livre est paru. Êtes-vous satisfait du résultat?
Oui, plutôt. Bon, comme j'ai la chance de pas vivre de mon livre, je continue à manger la même chose. Voilà, oui, il s'est bien vendu, il y a eu de la bonne presse. Non, moi, je suis bien servi par une maison d'édition, les éditions Zoé, qui font du bon travail. Donc, j'ai tout pour être content, oui.
Et puis, quel est votre passage favori du livre?
Du livre?
Oui.
C'est, je pense, l'ange qui s'appelle La femme du peuple et son fils.
Pourquoi?
Parce que c'est une scène de vie que... Alors ça, c'est une scène tout à fait réelle, hein, à l'origine, que j'ai vue quand j'avais 15-16 ans, qu'on allait au bal boire des verres avec des copains. Et j'ai vu ça m'a beaucoup impressionné, j'ai jamais oublié. Et j'ai réussi. J'avais cette histoire dans la tête, qui est toute simple, hein, mais je savais qu'un jour je devrais l'écrire précisément pour mm-hmm. qu'elle reste, et vraiment que chaque mot soit juste. Et j'ai réussi. Ça m'a pris du travail, hein, mais j'ai réussi, donc je suis content.
Et puis, au contraire, celle que vous appréciez le moins ?
Bon, il y a un ou deux portraits d'anges qui sont plus faibles pour moi, avec le recul. Je ne saurais pas dire maintenant la prof de piano ou des choses comme ça où j'ai pas l'impression que j'ai...
Mais des petits détails, pas un grand passage que vous regrettez particulièrement.
Non, je ne regrette pas parce que pour faire un livre comme ça, on doit tellement travailler, on a tellement de versions différentes jusqu'à la fin qu'à la fin, il faut vraiment qu'on assume tous les mots, qu'on a rien laissé passer. Quoi.
Ok.
Voilà.
Et puis maintenant, ça fait à peu près un an qu'il est paru, votre livre. Si vous vouliez changer quelque chose, qu'est-ce que vous feriez ?
Je voudrais pas changer quelque chose parce que ce serait un autre livre, quoi. Une fois qu'il est fini, qu'on l'a corrigé, parce qu'on le travaille beaucoup avec l'éditeur, eh bien, il faut assumer que c'est quelque chose sur lequel on peut. C'est trop tard, ça appartient au passé. Ça, okay. Maintenant, c'est le prochain qui m'intéresse.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vais vous faire part des avis que nous avons eus en faire votre livre, après avoir lu. Nous avons plutôt bien apprécié le roman parce que c'était assez original, la façon dont c'est écrit avec les chroniques différentes, les anges et tout. Alors ça nous a aussi beaucoup touché car ça parle de la Suisse, là où nous avons école, où nous vivons et pour la plupart d'entre nous où nous sommes nés et où nous avons grandi. Et surtout, on en a appris beaucoup en ayant lu votre roman parce qu'il y avait beaucoup de choses expliquées sur un peu de tout. Et pour avoir davantage d'avis, nous avons fait un petit micro-trottoir anonyme pour vous. Nous avons pu interviewer un professeur et une élève.
Bonjour monsieur, aujourd'hui on va vous poser quelques questions sur le livre, enfin vous demander surtout votre avis. Alors qu'est-ce que vous pensez du livre de monsieur Mézeau ?
Alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce que je trouve que c'est un livre qui est très travaillé pour la forme. Comme enseignant aussi, j'étais intéressé parce que je trouve que c'est un texte qui convient très bien à l'étude, notamment du commentaire de texte. Mm-hmm. Et on se rend compte que quand on fait lire des élèves, ils sortent des choses très intéressantes. Donc c'est un texte qui est très inspirant.
Au niveau analyse.
Au niveau contenu, comme je suis valaisan, je connaissais déjà quand même une bonne partie des choses qui sont mentionnées. Une chose qui m'a frappé, d'ailleurs que j'apprécie aussi, c'est la forme du livre, en fait, qui est quand même assez particulière. C'est-à-dire, c'est 10 chroniques avec. Non, c'est 13 chroniques avec 10. Et j'aimerais que M. Mézeau, en fait, vous explique ou nous explique, nous dise comment il est arrivé à cette forme, à ce choix. Qu'est-ce qui dicte quelque chose d'aussi morcelé ? Et est-ce qu'il y a des symboles dans ces chiffres ?
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Salut, alors est-ce que tu aurais lu le livre Absolument Moderne ?
Oui, je l'ai lu et j'ai trouvé intéressant le fait qu'il y ait des thèmes et des sujets différents. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres.
Mm-hmm. Et est-ce que tu aurais une question ou je sais pas ?
Oui, ma question c'est est-ce que ça vous a plu d'écrire ce livre ? Et voilà.
Ok.
Allez !
Merci beaucoup.
Je dois répondre ?
Oui, oui.
Donc aux deux questions, celle du prof et celle de l'élève. La question du prof c'était sur les anges ou la structure des 13.
Oui, la structure morcelée, oui.
Alors moi j'aime bien le morcelé, j'ai de la peine avec le continu, mais ça c'est un trait de caractère ou de personne, hein, donc voilà, c'est pas tellement un choix au départ. Moi j'arrive pas à écrire un roman en commençant par la première ligne, en allant jusqu'à la dernière. D'ailleurs je pense que personne écrit comme ça, pas personne, disons, sont rares ceux qui écrivent comme ça. Moi ce que je veux écrire ça me vient par flash, par des images, et donc j'écris des petits bouts de texte qui sont comme des morceaux d'un puzzle, puis après je les recolle les uns avec les autres ou je fais des liaisons, et donc je voulais pas cacher ça, alors je les ai mis sous forme de chronique. Et pour moi le petit texte dans la chronique, les textes numérotés, hein, de 7-8 lignes, c'est le souffle que j'ai, c'est ma respiration, j'arrive pas plus, j'en fais 8 lignes, après je dois m'arrêter. Et donc après, je peux continuer le lendemain, les 8 suivantes. mais ce jour-là, je pourrais pas faire plus. Et donc, à la fin, ça donne un truc morcelé, mais il y a quand même une structure qui fait l'ensemble. J'espère, en tout cas. Non, c'est pas le morcellement qui gagne. Et puis la question de l'étudiante, c'était sur... Ah si, j'ai eu du plaisir à écrire
ce
livre.
Oui, j'ai eu du plaisir, oui.
Oui, j'ai eu du plaisir. À plusieurs moments, je me suis vraiment beaucoup marré. Et puis à d'autres moments, moins, parce que c'est quand même difficile. Le plus difficile, c'est d'abord d'avoir toutes les informations. J'ai beaucoup lu, je me suis documenté. Puis après, de les répartir sans que ce soit trop ennuyeux. Il faut quand même qu'il y ait une suite et puis que les personnages aient de la consistance. Même si c'est un peu des personnages, c'est pas des vrais, c'est des personnages de roman, mais ils n'ont pas forcément une profondeur psychologique. C'est plutôt des acteurs, des parleurs. Donc oui, en général, j'ai beaucoup de plaisir, mais c'est pas facile non plus. C'est un énorme travail à écrire, parce qu'il faut beaucoup corriger, reprendre, il y a des moments de découragement. J'ai jeté des dizaines de pages qui n'allaient pas du tout, mais c'est difficile de les jeter quand vous les avez faites, quand ça vous avait pris des heures de le faire.
Mais vous l'avez écrit d'un coup, vous avez pris plusieurs jours, enfin chaque jour vous écriviez un petit peu, ou vous faisiez des jours où vous ne faisiez rien du tout, puis vous laissiez.
Disons, une fois que le projet a commencé, j'y pense tout le temps. Mm-hmm. Enfin, je ne lâche pas, parce que si je lâche, ça disparaît. Mais par contre, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper, ça c'est vrai, parce que j'ai un autre métier, etc. Puis j'ai fait d'autres choses à côté. Donc, mais par contre, il suffit, par exemple, d'avoir... Alors c'est une question de concentration, tous les jours... Dans un carnet, moi j'ai un carnet, quelques lignes, mais tous les jours. Alors.
Donc vous êtes consistant.
Même quand c'est nul, voilà.
Ouais. Ouais. Okay. Mm-hmm. Et puis en dernière petite activité, on vous a préparé un petit quiz sur plein d'informations sur le livre, donc il ne faudra pas regarder. On a réfléchi à ce qu'on vous faire gagner, puis on s'est dit qu'une boîte de chocolat c'était un peu nul. Du coup, on va vous faire gagner nos votes pour le concours du monde.
Ah,
voilà. Comme ça, c'est un petit challenge, c'est ça. C'est des questions un peu. Bon, il y a que vous l'avez écrit, normalement vous devriez le savoir, mais c'est vrai qu'on n'a choisi pas des questions très simples. On va commencer avec une gentille parce que je vois que c'était un peu compliqué ce qu'on a mis. Enfin, faut pas regarder. Quand vous trichez, je vous vois. Donc première question vraiment simple. Combien est-ce qu'il y a de chronies? Ça, vous savez.
13.
Exactement. Ça fait un point. Oui, parce que pour réussir, il faut avoir... Il y a 4 questions, il faut réussir 2. Ça
D'accord.
va, c'est la moitié. Ok. Combien est-ce qu'il y a de pages? Voilà.
Ouais, je crois 157.
155.
Presque. Oh,
presque. On va le compter juste.
D'accord.
On va le compter juste. Alors, ok, le premier mot du livre. Vous l'aviez dit tout à l'heure.
Au commencement.
Exactement. Et le dernier mot?
Je sais pas.
Tenante.
Tenante?
Tenante.
Tenante.
Ouais,
ah, séance tenante.
Séance tenante, exactement. Ouais. Bah, ça va, vous avez 3 juste. Félicitations. Vous avez nos votes, en tout cas.
Wow, merci. Merci.
Bon, on rigolait bien sûr, on va quand même prendre le temps d'analyser les autres livres avant de voter, mais vous avez gagné quelques points quand même. Et bah, pour finir, on tenait à vous remercier d'avoir pris part à ce jeu et d'avoir répondu à nos quelques questions.
Merci.
Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Un très grand merci à Jérôme Mézeau d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir pris du temps pour répondre à toutes nos questions. Merci aux chroniqueurs pour cette émission et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts sur Clapcast en attendant le prochain avec un invité tout aussi intéressant. Merci encore de nous avoir écoutés et bonne journée.
Écoutez-nous comme vous êtes.